Les rendez-vous civils, un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Carole Champalone, présidente de la première chambre civile de la Cour de cassation, et j'ai le plaisir d'introduire le troisième épisode des rendez-vous civils de la Cour de cassation. Les précédents rendez-vous avaient été consacrés à la présentation de la jurisprudence récente de la première chambre civile en matière de droit des étrangers, puis en matière de filiation. Vous avez été présenté dans ces épisodes antérieurs plusieurs arrêts sur ces deux thèmes qui illustraient la construction de la jurisprudence dans le temps, dans ces matières. C'est ce que nous appelons un panorama qui permet de se faire une idée des principes qui gouvernent un domaine du droit en particulier, de comprendre les évolutions de ceux-ci, à la faveur notamment des changements qui interviennent dans la société ou des progrès techniques que le législateur traduit dans la loi. Les intervenants, conseillers et conseillers référendaires à la Cour de cassation, vous avez également présenté comment la loi française s'inscrit dans une hiérarchie, ce que nous appelons la hiérarchie des normes, qui soumet la loi au respect de la Constitution et des traités internationaux signés par la France, tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou la Convention internationale des droits de l'enfant, dite de New York. Il vous avait expliqué comment se fait le travail d'interprétation de la loi par le juge dans ce respect de la hiérarchie des normes, qui est l'un des éléments constitutifs de ce qu'on appelle l'état de droit. Cette hiérarchie des normes s'impose aux trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Elle s'impose donc au juge. Vous pouvez retrouver ces podcasts sur le site de la Cour de cassation. Pour ce troisième rendez-vous, nous avons choisi une autre approche et cette troisième édition s'arrêtera, à la différence des précédentes, sur un arrêt, un seul, relevant de la matière du droit des contrats, qui a été rendu par la Chambre le 18 décembre 2024. En réalité, le même jour, une série d'arrêts a été rendue, car la Cour de cassation avait été saisie par plusieurs personnes de la même question. C'est ce que nous appelons un litige sériel, concernant un grand nombre de personnes, confrontées à une même difficulté juridique dans un litige, les opposant à une partie qui est, quant à elle, la même dans ces différents litiges. Mais c'est évidemment la même solution en droit, puisque la Cour de cassation ne tranche pas les litiges au fond, qui a été donné, et ce seul arrêt méritait de vous être présenté parce qu'à lui seul, donc, il fera jurisprudence, c'est-à-dire que la solution qu'il donne à la question posée pour la première fois à la Cour de cassation, qui sera appliquée dans des litiges identiques par la Cour d'abord, et des juridictions de première instance et des cours d'appel ensuite. C'est ainsi qu'est assurée dans notre système juridique et juridictionnel l'égalité des citoyens devant la loi lorsqu'ils sont concernés par un litige, puisque, comme le dit l'article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire, il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. Précision est en fait qu'elle est au sommet de l'ordre judiciaire. Cet arrêt méritait de vous être présenté parce qu'il porte sur la première interprétation d'un texte récent, issu de la réforme du droit des contrats, intervenu par une ordonnance du 10 février 2016, qui a réformé donc ce pan du droit, lequel, pour l'essentiel, était encore celui du Code civil, autrement dénommé Code Napoléon, de 1804. Cette ordonnance a été ratifiée par le législateur par une loi du 20 avril 2018, qui fixe donc, depuis cette date, l'état du droit général des contrats et du régime de la preuve et des obligations. C'est précisément sur une disposition issue de cette loi de ratification que la Cour de cassation a eu se pencher dans le domaine du droit des contrats. Contractants, nous le sommes tous, et pour les choses à la fois les plus banales, mais les plus essentielles de la vie quotidienne. Ainsi de l'eau potable, pour la fourniture de laquelle chacun de nous peut être, selon l'organisation juridique de la distribution de l'eau dans les territoires, un contractant de l'opérateur qui assure cette mission indispensable. Et c'est donc d'un contrat de fourniture d'eau dont ce podcast va vous entretenir, ce qui illustre que l'interprétation de la loi faite par la Cour de cassation concerne chacun de nous pour les actes les plus quotidiens. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de l'UNICEF, publié en août 2025, une personne sur quatre n'a pas d'accès sécurisé à l'eau potable dans le monde. Notre pays ne paraît pas concerné par ces chiffres. Mais ce serait oublier que certains territoires peuvent être concernés, pour des raisons multiples, à un manque d'eau potable, ponctuel ou récurrent. Tel est le cas à Mayotte, touché par ce qu'il est convenu d'appeler une crise de l'eau depuis plusieurs années, notamment en raison de sécheresses répétées. Et c'est cette crise de l'eau qui a conduit au litige soumis à la Cour de cassation, à l'occasion desquels a été rendu cet arrêt du 18 décembre 2024. On prête à l'un des pères de la Constitution américaine, Benjamin Franklin, la phrase suivante « Nul ne connaît la valeur de l'eau avant que le puits tarisse ». La question précisément posée aux habitants de Mayotte, confrontés non pas à un puits tari, mais à un robinet qui ne coule plus, ou peu, ou seulement à quelques heures de la journée, était celle de la valeur, ou dit plus économiquement, celle du prix de l'eau. C'est la question que certains d'entre eux ont posée aux juges, et c'est de cette question de savoir comment peut être réglé un litige portant sur le prix d'une prestation dans un contrat de droit commun dont il va être question maintenant. Pour vous présenter cet arrêt, deux voix s'exprimeront, et pour ce troisième rendez-vous, qui se présente également différemment des précédents rendez-vous sur ce point, ces deux voix seront celles d'un membre de la première chambre civile et celles d'un professeur d'université. S'ils vont bien sûr vous présenter les questions juridiques, car en réalité il n'y en avait pas qu'une, que cet arrêt a résolu, et la méthode de cette résolution, ce dialogue à deux voix va également permettre d'illustrer comment se fabrique un arrêt de la Cour de cassation sous deux aspects. Le premier aspect est celui substantiel, qui montrera que l'élaboration intellectuelle d'un arrêt réunit la communauté des juristes, parmi lesquels se trouvent les professeurs de droit et les magistrats, dans la mission d'interprétation de la loi. En effet, le juge n'est pas, et plus seulement, et depuis longtemps, la bouche de la loi. Entendons par là qu'il aurait le loisir, pourrait-on dire, de faire une application mécanique de la loi, ce qui supposerait qu'elle soit toujours littéralement susceptible de faire l'objet d'une telle application. Or, l'on sait depuis le discours préliminaire du premier projet de code civil, prononcé en 1801 par Jean-Étienne Talis, l'un de ses trois rédacteurs, que ce n'est pas le cas, car, pour le citer, un code, quelque complet qu'il peut paraître, n'est pas plutôt achevé que 1000 questions inattendues viennent s'offrir aux magistrats. Fin de citation. Et l'on peut substituer au terme de code celui de loi. Pour résoudre ces 1000 questions inattendues, l'interprétation de la loi qui est requise du juge par les plaideurs suppose que le juge mette en œuvre une méthode et des règles qui appartiennent à ce que l'on désigne communément sous l'expression de science juridique. Et cette science juridique le conduit à étudier la doctrine juridique ainsi que l'on désigne l'activité des professeurs de droit. L'interprétation de la loi par le juge est ainsi le fruit de ce que le premier président honoraire de la Cour de cassation, Guy Canivet, appelle une dynamique coopérative. Le juge étudiant la loi et ce qu'en dit la doctrine, laquelle étudie les décisions du juge, et ainsi de suite. Le second aspect que le présent podcast permettra d'explorer est celui de l'organisation du travail, à la fois individuel et collectif, et toujours collégial, qui aboutit à une décision de la Cour de cassation. Je remercie donc Mme Charlotte de Cabarrus, conseillère référendaire à la Cour de cassation, et M. Olivier Dehaye, professeur de droit privé, qui vont se livrer à ce dialogue. Je remercie également le service de communication de la Cour de cassation, et particulièrement son directeur, M. Guillaume Fradin, qui nous a assistés une fois de plus pour l'élaboration de ce troisième rendez-vous civil de la Cour de cassation, consacré à cet arrêt du 18 décembre 2024, rendu, comme chacun des arrêts de la Cour de cassation, au nom du peuple français. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode des Rendez-vous civils, nous nous penchons sur une décision qui a permis à la première chambre civile de trancher trois questions de droit délicates. Avec cette décision rendue le 18 décembre 2024, la première chambre a précisé la portée d'une jurisprudence récente sur la réparation du préjudice d'anxiété, mais elle a aussi clarifié une question ancienne, celle de la distinction entre réparation en nature et exécution forcée en nature. Enfin, elle a répondu à une question de droit nouvelle relative à la réduction du prix. Cette décision illustre particulièrement bien la fonction normative de la Cour de cassation. Elle a d'ailleurs été publiée au rapport annuel de la Cour, ce qui montre son importance. L'affaire dont il était question soulevait des questions juridiques complexes dans un contexte à la fois très sensible sur le plan humain. En effet, le litige s'est noué dans le cadre d'une sécheresse exceptionnelle survenue sur l'île de Mayotte en 2023, marque incontestable du réchauffement climatique et encore aggravée par la survenance d'un cyclone quelques jours après la décision commentée. Un contexte donc très sensible, mais aussi dont les faits sont assez simples, ce qui présente l'avantage de clarifier les questions et par conséquent les réponses que la Cour de cassation a voulu y apporter. En nous intéressant ensemble à cet arrêt, nous aurons également l'occasion d'évoquer et d'illustrer à deux voix les coulisses de la fabrique de la jurisprudence, et notamment le délibéré à la Cour de cassation, le dialogue entre l'école et le palais, c'est-à-dire entre les professeurs d'université et les magistrats de la Cour de cassation, ou encore les méthodes d'interprétation de la loi. Je suis Charlotte de Cabarrus, conseillère référendaire à la première chambre civile de la Cour de cassation. Avant cela, j'ai été juge dans un tribunal de grande instance pendant quelques années, puis j'ai travaillé au ministère de la Justice dans les années 2010, au moment de la réforme du droit des obligations. Dans cet épisode des Rendez-vous civils, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le professeur Olivier Dehay, qui enseigne le droit privé à l'université Paris-Panthéon-Assas.
Merci Madame la conseillère référendaire. Bonjour à tous et à tous. Avant toute chose, je voudrais remercier Madame la présidente Champalonne de m'avoir invité à participer à ce podcast. Et donc je suis ravi de me trouver aujourd'hui à vos côtés. Mes recherches portent sur le droit civil et plus particulièrement sur le droit des obligations. Et elles se sont notamment traduites par la publication avec deux collègues d'un commentaire de la réforme du droit des obligations de 2016. Et c'est précisément donc cette réforme, ainsi qu'il vient d'être dit par Madame la Présidente, que la décision que nous allons présenter a appliqué, et que la décision a même précisé à certains égards.
Venons-en au fait de la décision que nous avons choisi de commenter. Les habitants de Mayotte ont subi les conséquences d'une grave pénurie d'eau, due, comme je viens de le dire, à une sécheresse exceptionnelle. En juin 2023, le préfet a réglementé l'accès à l'eau par des arrêtés qui imposaient des suspensions temporaires de l'accès à l'eau du robinet, ce qu'on a appelé des tours d'eau. La société mahoraise des eaux, la SMAE, est le distributeur unique et exclusif d'eau potable sur cette île. Et certains de ses clients lui ont reproché de ne pas respecter, d'une part, ses obligations de continuité du service et, d'autre part, de fourniture d'une eau propre et salubre. Ils l'ont assigné en novembre 2023 pour qu'il lui soit ordonné de rétablir la livraison d'eau potable au robinet et sans coupure, et à défaut, de mettre à disposition à leur domicile des fontaines ou bouteilles d'eau, et afin d'obtenir la réduction de 90% du prix de l'abonnement, jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu. Ils ont également demandé la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'anxiété. Le tribunal saisi avait condamné le distributeur à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Il a ordonné la réduction du prix à hauteur de 70% et il a rejeté les autres demandes. La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé ce jugement, sauf sur un point, elle a rejeté la demande de réduction du prix. Comme je l'ai indiqué en ouverture de ce podcast, le pourvoi en cassation, formé par les clients de la SMAE, posait trois questions très intéressantes que nous allons examiner en détail. La première portait sur le préjudice d'anxiété et les conditions de sa réparation.
On appelle préjudice d'anxiété le préjudice psychologique dont souffre une victime qui se voit contrainte de vivre sous la menace de la dégradation de son état de santé, typiquement sous la menace de développer une certaine maladie. Il s'agit d'un chef de préjudice dont la reconnaissance est plutôt récente, mais qui n'est en fait qu'une variété de préjudice moral. Il faut bien comprendre que l'indemnisation du préjudice d'anxiété ne vise pas à compenser le mal qui frapperait la victime si sa santé se dégradait effectivement, car cela est futur et à ce stade simplement éventuel, mais bel et bien à indemniser la souffrance psychique actuelle qu'éprouve la victime, qui est placée dans une situation d'incertitude quant à l'évolution de sa santé. La Cour de cassation a reconnu l'indemnisation de tels préjudices d'anxiété, notamment dans des affaires de sondes cardiaques défectueuses ou de prothèses mammaires insuffisamment résistantes. La Chambre sociale de la Cour de cassation, de son côté, a également reconnu l'indemnisation du préjudice d'anxiété développé par des salariés du fait de leur exposition à l'amiante dans le cadre de leur travail. Il avait été compris par tous que l'indemnisation était suspendue à la condition que la victime soit soumise à un risque élevé, du moins un risque non négligeable, de mourir, de devoir subir une opération lourde ou de développer une pathologie grave. Ainsi, la Chambre sociale a-t-elle jugé à plusieurs reprises, à propos de l'exposition à l'amiante, que, je cite, « le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur. » Dans une décision plus récente rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation au sujet d'une exposition au médicament Distilbène, la Cour a semblé desserrer la vis et admettre plus largement l'indemnisation du préjudice d'anxiété. Cette décision, elle date du 18 octobre 2023 et la première chambre civile y juge que, je cite, « constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage. » Rien de plus. Constitue un préjudice indemnisable l'anxiété, sous-entendu toute anxiété, résultant de l'exposition à un risque de dommage, sous-entendu tout risque de dommage. Dans le cas d'espèce, il ne faisait aucun doute que la victime avait été exposée à un risque élevé de développer une maladie grave. Dans le cas d'espèce, qui a donné lieu à l'arrêt de 2023. Mais l'affirmation générale que je viens de lire ne fait pas mention de ces conditions, ouvrant ainsi la voie à une application plus large de la solution. Et la doctrine s'en est logiquement étonnée. Dans notre affaire présente d'eau potable, les particuliers demandaient eux aussi l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Il faut dire que les coupures d'eau entraînaient des risques de développement de bactéries, de sorte que les usagers vivaient sous la crainte que l'eau sortant de leur robinet ne soit vectrice de maladie. Et dans l'arrêt, la Cour de cassation juge que constitue, je cite, « un préjudice indemnisable, l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ». Les deux conditions sont réintroduites, la vis s'est donc resserrée, si je puis dire. Donc dans cette partie de la décision, on voit que la Cour précise, elle précise une formule antérieure qui peut-être était trop générale ou du moins perçue comme telle. Aussi, la première question qui se pose, en tout cas pour l'auteur de doctrine dont je suis, est de savoir si la Cour de cassation a bien réagi à un étonnement de la doctrine, si elle avait conscience que la formule adoptée en 2023 paraissait étonnamment large, et donc à la question de savoir qui souffle à la Cour de cassation le besoin d'apporter la précision qui a été ajoutée en 2024. On devine que les arrêts des juges du fond et la façon dont les pourvois sont rédigés ont une importance décisive. Mais qu'en est-il des commentaires de doctrine? Peuvent-ils, pourquoi pas, avoir également un rôle?
Absolument. À chaque fois qu'un conseiller rapporteur étudie un pourvoi, il a deux réflexes. D'abord, rechercher les textes applicables et les précédents sur la question posée, les précédents de la chambre à laquelle il appartient et ceux des autres chambres de la Cour qui ont pu être confrontés à des questions similaires. Ensuite, examiner ce qu'en dit la doctrine, en citant les ouvrages et les articles les plus intéressants. Enfin, notamment en cas de questions nouvelles, dans quel sens ont pu trancher les juges du fond saisis de questions semblables. C'est d'ailleurs ainsi que sont construits les rapports, qui sont de plus en plus souvent publiés lorsque l'arrêt est important, comme c'est le cas en l'espèce. J'étais rapporteur de l'arrêt commenté et figure dans mon rapport les interrogations doctrinales, dont vous avez fait l'écho, sur la portée de l'arrêt du 18 octobre 2023.
Alors, Madame la conseillère, vous venez d'indiquer que vous étiez rapporteur dans l'affaire considérée. Donc peut-être le moment est-il bien trouvé d'ouvrir une courte parenthèse au sujet du rôle que joue le rapporteur dans l'adoption des décisions à la Cour de cassation. Doit-on considérer qu'il a une responsabilité ou une importance particulière relativement aux décisions rapportées ?
Comme son nom l'indique, le rapporteur est celui qui fait un rapport sur le dossier, qui consiste à présenter la question soumise à la Cour de cassation, analyser les textes qui la régissent, examiner les solutions déjà apportées, s'il y en a à cette question, présenter les commentaires qui ont pu être faits de ces solutions et analyser les enjeux de la réponse pour le contentieux en cause ou de façon plus générale. Sa mission est aussi de rédiger un ou plusieurs projets d'arrêt sur le pourvoi. et d'accompagner ses travaux de son avis, couvert par le secret du délibéré. Ces travaux, qui ont pu le conduire à discuter de l'affaire avec d'autres collègues qui ont la même spécialité que lui, sont ensuite examinés par le doyen de la formation compétente. Le doyen est un conseiller parmi les plus expérimentés qui a été choisi par le premier président de la Cour sur proposition du président de chambre pour son expertise en matière de technique de cassation et sa connaissance particulièrement approfondie de la jurisprudence. Le doyen, après son propre travail de révision, examine ensuite les travaux du rapporteur avec le président de la Chambre. Cet examen donne lieu à des propositions sur le ou les projets rédigés par le rapporteur avant que ces travaux soient examinés par la formation de jugement. Ainsi, même si le rapporteur est celui qui est le premier à avoir travaillé en profondeur sur le dossier et qui va continuer à le faire jusqu'à l'examen effectif du pourvoi à l'audience, il n'est bien évidemment jamais seul pour juger une affaire. Toute décision de la Cour de cassation est prise au moins par 3 magistrats. Le conseiller rapporteur, qui peut être un conseiller ou un conseiller référendaire, lequel a, dans l'hypothèse où il est rapporteur, quelle que soit la nature de la formation, une voix délibérative, ainsi que le président de la Chambre et le doyen. Alors pour les questions complexes, comme celles abordées par l'arrêt commenté, nous nous réunissons en formation de section, c'est-à-dire en général une dizaine de conseillers. C'est l'une des spécificités, l'une des richesses de la Cour de cassation, cette délibération augmentée, si je puis dire. Elle permet de confronter les points de vue de magistrats au parcours varié, qui arrive à la Cour de cassation soit en milieu de carrière pour les conseillers référendaires, soit en fin de carrière pour les hauts conseillers. Certains ayant eu un parcours de juge du fond jusqu'à leur arrivée à la Cour de cassation, d'autres ayant travaillé à l'élaboration de la loi au ministère de la Justice, ou encore au sein d'autres institutions dans le cadre de détachement, certains enfin étant des professeurs devenus conseillers en service extraordinaire. Chacun des conseillers et conseillers référendaires a son ou ses domaines de spécialité. Et lorsqu'un dossier est examiné en formation de section, nous pouvons donc croiser les regards des spécialistes, à l'évidence indispensable, et des non-spécialistes, précieux aussi en ce qu'ils permettent d'assurer la cohérence du droit, au-delà de la matière spécifiquement concernée par le litige. Tout arrêt est donc le fruit d'une délibération collégiale où s'applique la règle de la majorité. Il faut noter aussi qu'avant cette délibération, tous les dossiers sont communiqués au parquet général, dont le rôle est défini par l'article L432-1 du Code de l'organisation judiciaire, et qui consiste à donner, lorsqu'il l'estime utile, ce qui est lié en général à la difficulté de l'affaire, un avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun, et afin d'éclairer la Cour sur la portée de la décision à intervenir.
Mais revenons à présent à l'arrêt commenté. En un sens, la séquence sur le préjudice d'anxiété, donc une décision de 2023 qui semble admettre assez largement l'indemnisation, puis notre décision de 2024 qui resserre la vis, en un sens, cette séquence, elle rappelle que l'interprétation des formules trouvées dans les arrêts, aussi générale soit-elle, ne peut être totalement déconnecté des faits à l'occasion desquels les solutions ont été rendues. De nouvelles circonstances de faits peuvent justifier une solution différente. Du moins, elles peuvent appeler une distinction qui n'était pas faite initialement. Donc j'imagine que la Cour, de l'intérieur, tente d'anticiper l'interprétation qui sera faite de ces décisions. Alors, est-elle parfois étonnée des réactions ou interrogations provoquées ou suscitées par sa décision? Alors, prenons l'exemple de 2023. Est-ce que la Cour a été surprise que la doctrine s'étonne d'une libéralisation possible de l'indemnisation du préjudice d'anxiété?
Vous avez raison, cette question illustre la difficulté à laquelle est confrontée la Cour de cassation. Il y a une tension permanente entre la nécessité de résoudre un cas d'espèce et le souhait, parfois risqué, d'énoncer une solution plus générale qui a vocation à éclairer le lecteur au-delà des parties au litige, afin de favoriser la sécurité juridique. À cet égard, vous avez dû noter que depuis quelques années, la Cour de cassation rédige plus de chapeaux, c'est-à-dire plus d'énoncés de règles abstraites, qui sont détachées des circonstances factuelles du litige. De façon désormais systématique en cas de cassation et de plus en plus souvent en cas de rejet du pourvoi, et ce pour améliorer la lisibilité de la portée de nos arrêts. Dans l'arrêt commenté, vous l'avez relevé, la première chambre revient sur un arrêt du 18 octobre 2023 qui avait énoncé de façon plus large que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage. Mais en réalité, les précédents arrêts dans lesquels elle avait reconnu le préjudice d'anxiété concernaient tous des hypothèses où les victimes avaient, de fait, été exposées à un risque élevé de développer une pathologie grave. En particulier les victimes du Distilben dans l'arrêt du 18 octobre 2023 ou des prothèses PIP dans un arrêt du 25 mai 2023. Il fallait donc quand même lire cet énoncé général à la lumière des faits en cause. L'occasion a été donnée à la Cour, par les affaires que nous commentons, de procéder au resserrage que vous évoquez, pour dire que la règle n'avait pas changé, car les interrogations de la doctrine avaient bien été identifiées, comme je l'ai précédemment indiqué.
Le deuxième point de droit est consacré à la distinction entre l'exécution forcée et la réparation en nature. Alors les choses se présentent à cet égard sous la forme d'une question qui est d'une simplicité enfantine. Le client, qui a conclu un contrat d'approvisionnement d'eau potable, peut-il exiger, lorsque l'approvisionnement au robinet n'est pas possible, que des bouteilles d'eau ou des fontaines d'eau lui soient fournies à la place? D'un point de vue théorique, la question est pourtant redoutable. Quelques rappels sont nécessaires pour bien comprendre les choses. En matière délictuelle, et j'insiste ici, délictuelle, donc en dehors du champ du contrat, en matière délictuelle, où il est toujours question de réparer un préjudice, une mesure de réparation en nature, c'est-à-dire consistant en autre chose que l'allocation d'une somme d'argent, de dommages et intérêts, cette réparation en nature est possible. Mais il est admis qu'une telle mesure est facultative pour le juge, qui peut trouver préférable de condamner le débiteur à de simples dommages et intérêts. En matière contractuelle, à l'inverse, et c'est notre domaine ici, en matière contractuelle, la sanction, en quelque sorte ordinaire, ne vise pas à réparer un préjudice, mais à permettre au créancier d'obtenir ce qui lui était dû. Cette sanction est l'exécution forcée en nature. Le débiteur est condamné à exécuter la prestation promise. Cette sanction est de droit. On dit qu'elle est de droit en ce sens que le juge ne peut refuser de la prononcer. Tout du moins, lorsque les conditions prévues par la loi sont satisfaites. Cela étant dit, il est aussi admis que le créancier doit pouvoir obtenir autre chose que la stricte exécution en nature de ce qui était promis. Il peut aussi parfois obtenir un équivalent en nature. Mais toute la question est précisément de savoir si, en octroyant non pas la chose même qui était promise, mais un équivalent en nature, et vous m'avez compris, des bouteilles d'eau ou une fontaine d'eau à la place de l'eau au robinet, savoir si donc le juge prononce une mesure d'exécution sous une forme différente, ou bien s'il prononce une mesure de réparation en nature, comme il le fait en matière délictuelle. Une controverse doctrinale très vive existe sur ce point. Elle oppose deux camps. Dans le premier camp, on trouve ceux qui pensent les conséquences de l'inexécution du contrat en termes de responsabilité contractuelle et qui ne voient donc aucune difficulté à admettre qu'il y ait place, aux côtés de l'exécution forcée en nature, à une réparation, que cette réparation soit elle-même en nature ou par équivalent. Dans l'autre camp, figurent les auteurs qui rejettent la présentation des sanctions de l'inexécution du contrat en termes de responsabilité contractuelle, laquelle serait un faux concept, selon une expression célèbre du professeur Philippe Rémy, et qui jugent que le créancier ne cherche pas à obtenir réparation d'un préjudice. Il ne veut que l'avantage qu'on lui a promis, de sorte qu'il s'agirait toujours et uniquement d'assurer l'exécution du contrat. Dans l'arrêt examiné, la Cour rejette le moyen du pourvoi qui réclamait l'exécution forcée du contrat sous la forme de livraison de bouteilles d'eau. La Cour indique que l'exécution forcée du contrat, je cite, « ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat ». L'exécution forcée ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat. Elle ajoute, sous la forme d'une incise, que l'exécution forcée en nature est, je cite, « distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle. En l'espèce, la Cour d'appel avait relevé que le contrat ne portait pas sur la livraison d'eau abstraitement envisagée, mais bien sur la livraison d'eau au robinet. De sorte que la demande en exécution ne pouvait conduire, si cela avait été possible, qu'à rétablir cet accès à l'eau par le robinet, et en aucun cas à livrer des bouteilles d'eau. Livrer des bouteilles d'eau ou des fontaines d'eau eût été envisageable, mais ce n'aurait pas été une mesure d'exécution du contrat, puisque la mesure n'est pas celle qui était prévue dans le contrat, c'eût été une mesure de réparation en nature. Alors voilà qui est passablement complexe, mais essayons de résumer les choses. C'est dire deux choses. Premièrement, que le client aurait pu demander la livraison de bouteilles d'eau, mais uniquement à titre de mesure de réparation en nature. Et comme il ne l'a pas fait en l'espèce, comme il s'est placé en espèce sur le terrain de l'exécution qui n'était pas le bon terrain, eh bien sa demande n'a pas pu prospérer. Deuxièmement, c'est dire que la réparation en nature a une place en matière contractuelle, ce qui n'est pas rien, et ça revient même à prendre parti dans la controverse opposant les tenants de la responsabilité contractuelle et les opposants à cette prétendue responsabilité. La Cour, en somme, fait un choix délibéré. Elle fait un choix délibéré, puisque non nécessaire dans l'affaire, d'introduire sous forme d'incise l'allusion à la réparation en nature pour dire qu'elle est possible, même si elle n'avait pas été demandée en l'espèce. Et cela peut surprendre, car le risque est évidemment de prendre inutilement position sur une question, comme vous l'avez constaté, effroyablement complexe, qui n'était pas posée. Risque donc de le regretter par la suite. Alors doit-on y voir la confirmation d'un passage d'une position historique de prudence de la Cour de cassation à l'égard des innovations, passage à la révélation plus assumée par la Cour de son rôle normatif. Mais peut-être, autre façon de voir les choses, la Cour a-t-elle considéré que ses mains étaient liées ? Peut-être liées par la réforme du droit des obligations, dont certains disent qu'elle a elle-même tranché la controverse. Ou bien la Cour de cassation était-elle peut-être engagée par d'autres décisions antérieures qui avaient elles-mêmes consacré cette distinction. Dit autrement, est-il possible que la Cour de cassation ait eu la conviction simplement de confirmer une solution acquise et non d'innover ? Et par ailleurs, quelles conséquences pratiques le lecteur doit-il, peut-il tirer de cet obiter dictum, de cette affirmation en passant, qui prend la forme en l'occurrence donc d'une incise dans la décision ?
Sur ce point, en retenant une conception étroite de l'exécution forcée en nature, la Cour de cassation ne fait que réaffirmer une solution ancienne qui avait été énoncée dans de multiples arrêts publiés depuis un arrêt de la 3e Chambre civile du 28 février 1969 jusqu'à un arrêt de cette Chambre du 6 juillet 2023, en passant par un arrêt de la Chambre commerciale du 24 mai 2011. Solution qui avait également été consacrée par la réforme du droit des contrats, vous venez de le dire, qui a confirmé que la responsabilité contractuelle n'est pas un faux concept, puisque cette réforme prévoit, parmi les sanctions de l'inexécution contractuelle, la réparation du préjudice résultant de l'inexécution. En l'occurrence, si la Cour de cassation a apporté cette précision, ce n'est pas pour trancher cette belle question théorique qui passionne la doctrine depuis des décennies. C'est parce que cette distinction entre exécution forcée en nature et réparation en nature a des enjeux très concrets, comme vous venez de le rappeler. Certes, ces deux sanctions poursuivent le même but, c'est-à-dire satisfaire le créancier, et elles ont le même fondement, c'est-à-dire la créance issue du contrat. Mais leurs régimes sont très différents. D'une part, l'exécution forcée en nature ne peut porter que sur l'obligation souscrite, tandis que la réparation en nature englobe toute mesure visant à satisfaire le créancier de l'obligation inexécutée. En l'occurrence, la distinction se perçoit bien. La livraison de bouteilles d'eau, si elle n'est pas prévue au contrat, peut constituer une mesure de réparation en nature et non une exécution forcée du contrat. Deuxième différence, pour obtenir la réparation en nature, le créancier doit prouver qu'il subit un préjudice, condition qui n'est pas nécessaire s'agissant de l'exécution en nature. Mais on peut relever que cette distinction est peut-être à nuancer. Depuis la nouvelle exception à l'exécution en nature, consacrée par l'article 1221 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, lorsque, je cite, « il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». L'absence de préjudice peut désormais être prise en compte pour apprécier l'intérêt du créancier à cette exécution, et donc sa proportionnalité par rapport au coût pour le débiteur. Troisième différence, l'exécution en nature est de droit, en dehors des exceptions prévues par le nouvel article 1221 du Code civil, impossibilité ou disproportion. Tandis que, vous l'avez souligné, le juge apprécie les modalités de réparation, en nature ou en dommages et intérêts. L'affaire offrait donc l'opportunité d'illustrer concrètement la différence entre les deux notions, sans qu'il y ait des conséquences à en tirer dans la solution à apporter aux demandeurs, et ce soit dit en passant, comme l'on traduit familièrement l'expression latine obiter dictum, est un vecteur du rôle normatif de la Cour qui a pour finalité de contribuer à la sécurité juridique.
Nous en venons à présent au troisième et dernier point de droit. Il concerne la réduction de prix, réduction à laquelle Madame la présidente de la première chambre civile a fait amplement allusion dans son propos introductif. La réduction du prix est une sanction de l'inexécution des contrats qui a été introduite dans le Code civil en 2016. Elle consiste, lorsque l'une des parties n'a que partiellement exécuté son obligation, à réduire proportionnellement le prix qui fait office de contrepartie. Pour le dire de manière très simple et très schématique, si le co-contractant ne me livre que 50% du blé qu'il m'a promis, eh bien le prix sera réduit lui-même de 50%. Dans le cas présent, les utilisateurs qui n'avaient pas accès à l'eau ou qui n'avaient accès à l'eau qu'épisodiquement et qui se plaignaient par ailleurs de sa médiocre qualité, réclamaient de manière fort logique de n'avoir pas à payer tout le prix contractuellement prévu. Et cela ne fait aucun débat. La difficulté tenait simplement à cela que la loi, en 2016 donc, a prévu deux mécanismes de réduction de prix, en l'occurrence dans un article 1223 du Code civil. Soit, première hypothèse, le prix n'a pas encore été payé, et alors le co-contractant réduit tout seul le prix. La réduction de prix est dite unilatérale. Soit, deuxième hypothèse, le prix a été payé, et alors notre article 1223 prévoit qu'il faut saisir le juge d'une demande en réduction de prix. La réduction de prix est alors judiciaire. Dans le cas présent, les clients n'avaient pas payé le prix, mais ils avaient néanmoins saisi le juge. Ils étaient donc, dans la première hypothèse, dans le cas qui permette une réduction unilatérale de prix, mais ils avaient néanmoins choisi de saisir le juge, comme le prévoit la seconde hypothèse, en demandant à ce dernier donc, de prononcer la réduction. La Cour de cassation avait donc à trancher une question qui est toute nouvelle, celle de savoir si la partie, le co-contractant, qui a le droit de décider unilatéralement de réduire le prix, peut préférer saisir le juge à la place. Dans l'arrêt commenté, la réponse est oui. La Cour juge que, je cite, « la réduction de prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Il est intéressant de noter que la Cour recourt sur ce point à ce qu'on appelle désormais la motivation enrichie, ce qui est le signe de l'importance attachée par elle à cette partie de la décision. C'est le révélateur qu'il y a là une solution nouvelle. Alors, une solution nouvelle, vous l'avez compris, parce que la question elle-même est nouvelle. Question posée par un texte nouveau, pour la première fois. Et dans cette motivation enrichie, la Cour renvoie notamment aux travaux préparatoires de la réforme, dont il est dit qu'ils ne permettent pas d'affirmer que le législateur a tranché la difficulté. Dit autrement, le fait que le législateur ait distingué deux hypothèses n'interdit pas que la personne qui se trouve dans la première hypothèse, réduction censément unilatérale, puisse, s'il le préfère, saisir le juge. Plusieurs questions se posent à cet égard. Le recours à de tels travaux préparatoires est-il systématique, même si cela n'est pas toujours visible dans les décisions ? Existe-t-il d'autres méthodes d'interprétation des textes concurrentes ou alternatives ? Bref, quel est le poids de cet argument des travaux préparatoires par rapport à d'autres arguments envisageables ? Puis dans le cas présent, il existait de véritables travaux préparatoires législatifs, puisque l'article 1223, en l'occurrence, a été totalement refondu par le Parlement en 2018 à l'occasion de la loi portant ratification de l'ordonnance de réforme. Mais question, est-ce que le réflexe eût été le même si c'était un texte issu de l'ordonnance de 2016, donc ordonnance acte de gouvernement, pas de travaux parlementaires au sens strict? La solution donc eût-elle été la même si c'était un texte issu de l'ordonnance de réforme qui avait donné lieu à discussion?
Ces dernières années, vous l'avez vu, la Cour de cassation a beaucoup réfléchi à la rédaction de ces arrêts pour les rendre plus compréhensibles. Cela passe par le style direct et une structuration plus lisible, mais aussi bien sûr par la motivation. Dans plusieurs hypothèses, la motivation est dite enrichie lorsque la Cour de cassation procède à un contrôle de proportionnalité, à un revirement de jurisprudence, ou encore lorsqu'elle tranche une question nouvelle, comme c'était le cas en l'espèce. Et effectivement, pour interpréter la loi, le juge de cassation se réfère systématiquement aux travaux préparatoires, spécialement lorsque le texte est récent. Tenter d'identifier la volonté du législateur fait partie de nos méthodes d'interprétation. C'est important car il s'agit de respecter la séparation des pouvoirs, principe cardinal de l'état de droit. La recherche de cette intention du législateur n'est bien sûr pas suffisante, en particulier si la réponse n'est pas claire, ou si elle conduit à retenir une solution aberrante ou incohérente avec le système juridique dans lequel s'inscrit le texte en cause. En l'occurrence, comme le relève l'arrêt commenté, le législateur ne s'était pas posé la question précise que soulevait le pourvoi. L'intention du législateur n'existait donc pas. La Cour de cassation a alors recherché la cohérence du système juridique, puisque l'article 1223 du Code civil s'inscrit dans un corps de règles complètes, en droit des contrats et en particulier s'agissant de la sanction de l'inexécution contractuelle. L'arrêt commenté retient deux types de raisonnements à cet égard. D'abord, un raisonnement a fortiori. Un créancier qui peut faire usage d'une sanction unilatérale doit pouvoir, a fortiori, demander au juge de prononcer cette sanction. C'est une déclinaison du droit au juge. Et d'ailleurs, c'est bien la possibilité d'une réduction unilatérale du prix qui a fait débat en doctrine et au Parlement, et non pas la possibilité d'une réduction judiciaire du prix. Ensuite, un raisonnement par analogie. L'interprétation retenue est inspirée, à l'évidence, des règles applicables à la résolution du contrat. Même si la résolution unilatérale est possible, soit par le jeu de la clause résolutoire, soit par le jeu de la résolution par notification, la résolution judiciaire reste possible en toute hypothèse. De même, la réduction du prix peut toujours être demandée en justice selon l'arrêt commenté, qui reprend la formule de l'article 1227 du Code civil relatif à la résolution. Une autre méthode d'interprétation que peut également utiliser la Cour de cassation est la recherche de l'utilité, de la justice de la règle, par la mise en balance des intérêts, en l'occurrence les intérêts du créancier et du débiteur. Pour assurer un équilibre entre les droits des deux contractants, il est apparu utile de préciser, par un nouvel obiter dictum, que le refus de payer le prix dû se fait aux risques et périls du créancier de la prestation. Ce dernier pourra, le cas échéant, être condamné à payer au débiteur des dommages et intérêts. Là encore, il s'agit de contribuer à la connaissance du droit au-delà du litige entre les parties et au-delà des circonstances particulières de l'affaire. En donnant cette précision, la Cour invite les co-contractants qui pourraient se trouver dans une situation similaire à mesurer que l'accès au juge pour obtenir une réduction du prix ne doit pas se faire à la légère.
Trois problèmes de droit, deux obiter dicta, donc une motivation enrichie, une décision prise en formation de section. Voilà décidément une décision tout à fait remarquable. Il n'y a pas lieu d'être surpris dans ces conditions que la dite décision figure au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024, c'est-à-dire qu'elle figure au titre des décisions les plus importantes de l'année. Merci, Madame la conseillère, de cet échange. Alors, j'en retiens personnellement que la Cour de cassation est animée de la volonté d'être la plus claire possible sur son propre fonctionnement et sur ses méthodes, mais aussi qu'elle assume un rôle normatif fort.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le professeur. C'est la fin de ce podcast. Vous retrouverez les arrêts cités, ainsi que les précédents numéros des rendez-vous civils sur le site internet de la Cour de cassation, à la rubrique kiosque. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour un nouvel épisode qui sera consacré au droit de la nationalité, qui connaît également une riche actualité jurisprudentielle.